Et puis finalement, elle était morte. Un appel téléphonique me l'avait appris en pleine nuit. Je ne savais ni où, ni de quelle façon, ni pour quelle raison, ni dans quel but. Mais M avait pris la décision de mettre fin à ses jours. Et elle était passée à l'acte. Elle avait quitté ce monde tranquillement, sans doute. Tous les marins du monde et toutes leurs paroles douces et habiles n'avaient pu la délivrer, ou l'enlever, du royaume des morts. Si vous tendez bien l'oreille la nuit, vous aussi vous pourrez entendre les chants des deuils des marins au loin. Pour moi, avec sa mort, ce fut comme si j'avais perdu à tout jamais la part du jeune garçon de 14 ans qui était encore en moi. Cette part de 14 ans disparut pour toujours de ma vie, comme un maillot au numéro retiré d'une équipe de baseball. Elle repose au plus profond de la mer, bien enfermée dans un coffre-fort aux serrures complexes. Sans doute pour 1 milliard d'années. Les ammonites et les chelacanthes veillent dessus en silence. Le merveilleux vent d'ouest a aussi complètement cessé de souffler. Les marins du monde ont amèrement pleuré la mort de M, et également les ennemis des marins du monde. Lorsque j'appris la mort de M, j'eus le sentiment d'être le numéro 2 en termes de solitude sur Terre. Le numéro 1 était son mari, sans aucun doute. Je lui laissais cette place. Je ne savais pas du tout quel homme il était. Je n'avais aucune information sur son âge, sur ce qu'il faisait ou ne faisait pas. La seule chose que je connaissais de lui, c'était sa voix grave. Mais cette voix ne me disait rien de précis sur lui. Était-il marin, ou au contraire en rivalité avec les marins? Dans ce cas, nous aurions un terrain d'entente. Dans la première des hypothèses, j'éprouverais tout de même de la compassion. J'aurais aimé faire quelque chose pour lui. Je n'avais cependant aucun moyen de me rapprocher de lui, étant donné que je ne connaissais ni son nom, ni son adresse. Peut-être d'ailleurs n'avait-il déjà plus ni nom, ni domicile. Il était en tout cas l'homme le plus seul au monde. Au cours d'une promenade, je m'assis en face de la statue d'une licorne. Il y a toujours, sur le parcours de mes promenades, des jardins qui abritent une statue de licorne. Et je pensais à lui, tout en contemplant un jet d'eau glacée. Je tentais d'imaginer ce que signifiait être l'homme le plus seul au monde. Le deuxième, je le savais déjà, mais pas encore le premier. Il y a un profond fossé entre le premier et le deuxième, sûrement. Pas seulement profond, un fossé terriblement large aussi. Si large que les oiseaux ne parviennent pas à voler d'un bord à l'autre, et que leurs cadavres s'accumulent au fond. Un jour, soudain, vous êtes devenus des hommes sans femme. Ce jour arrive sans qu'il y ait eu auparavant la moindre allusion ou le moindre avertissement, sans que vous ayez éprouvé le pressentiment ou de prémonition, sans toc-toc, sans petit toussotement. Vous avez tourné à un angle et vous savez déjà que c'est arrivé. Mais impossible de revenir en arrière. Dès ce tournant pris, voici le seul monde qui sera le vôtre désormais. Un monde que l'on appellera celui des hommes sans femme. Un pluriel froid et sans fin. Seuls les hommes sans femme peuvent comprendre à quel point il est déchirant et horriblement triste d'être un homme sans femme. D'avoir perdu le merveilleux vent d'ouest. D'être privé pour l'éternité, 1 milliard d'années, ça se rapproche de l'éternité, de ses 14 ans. D'entendre dans le lointain les chants des marins, chargés d'une douloureuse mélancolie. De séjourner en compagnie des ammonites et des chelacanthes, dans les abysses obscurs des océans. D'être appelé à 1 heure du matin. De rencontrer un étranger, en un point arbitraire, situé entre savoir et non savoir. De verser des larmes sur une route sèche, tout en vérifiant la pression de ses pneus. Quoi qu'il en soit, face à la statue de la licorne, je priais pour qu'il se relève un jour. Je priais que, pour sans oublier les choses vraiment importantes, ce que l'on appelle parfois essence, il puisse oublier complètement tous les autres faits annexes. Ce serait encore mieux s'il pouvait oublier qu'il les avait oubliés. C'était ce que j'espérais pour lui de tout mon cœur. N'était-ce pas formidable? Le deuxième homme le plus seul au monde pensant au premier homme le plus seul au monde qu'il n'avait jamais rencontré et priant pour lui. Mais pourquoi avait-il décidé de me téléphoner? Aujourd'hui encore, je continue à me poser la question. Non pas que je lui reproche son coup de fil, il s'agit d'une interrogation pure, pour ainsi dire, de principe. Comment me connaissait-il? Pourquoi tenait-il compte de moi? La réponse semble évidente. M avait raconté à son mari quelque chose sur moi, sinon je ne voyais pas. Il m'était impossible de deviner ce que M avait pu dire de moi. Fallait-il pourtant qu'elle explicite en particulier à son propre mari quelle valeur, quelle signification je représentais à ses yeux, moi, son ancien amoureux? S'agissait-il de quelque chose d'important, en lien avec sa mort? Mon existence projetait-elle une ombre sur sa mort? Ou alors peut-être M avait-elle raconté à son mari qu'elle trouvait que mon pénis avait une jolie forme? L'après-midi, au lit, elle l'admirait bien souvent. Elle le posait délicatement sur la paume de sa main, et on aurait dit qu'elle contemplait avec émerveillement un joyau de légende sur un diadème indien. « Sa forme est merveilleuse, » disait-elle. « Moi, je n'aurais su dire. » Était-ce la raison pour laquelle le mari de M m'avait appelé, pour saluer avec respect la forme de mon pénis, à plus de 1 heure du matin? Non, tout de même. Sans compter que l'organe en question n'avait rien de particulier. Il était parfaitement ordinaire. À bien y réfléchir, j'avais toujours considéré que le sens esthétique de M était sujet à caution. Elle avait une curieuse échelle de valeur, qui différait beaucoup de celle de la plupart des gens. Peut-être, je n'arrivais pas à imaginer autre chose, lui avait-elle raconté qu'elle avait partagé sa gomme avec moi au collège. Sans arrière-pensée, sans mauvaise intention, juste une petite anecdote toute simple. Pourtant, il allait de soi que ce récit avait excité la jalousie de son mari. Même si M avait fait l'amour avec des tas de marins, ils auraient pu remplir 2 autobus. La moitié de gomme que j'avais reçue en cadeau avait provoqué chez lui une jalousie infiniment plus violente. N'était-ce pas tout à fait naturel? Après tout, 2 autobus de musculeux matelots, eh bien quoi? Alors que M et moi avions tous les deux 14 ans et qu'à cet âge-là, même le vent d'ouest me donnait une érection, qu'elle ait offert la moitié de sa gomme neuve à un jeune garçon, c'était nettement plus dévastateur. Comme une douzaine de vieilles granges, à la merci d'une gigantesque tornade. Depuis lors, chaque fois que je passe devant une statue de licorne, je m'assois un moment et je me mets à méditer sur les hommes sans femme. Pourquoi en ce lieu? Pourquoi près d'une licorne? Peut-être parce que cette créature appartient aussi au monde des hommes qui n'ont pas de femme. Je n'ai à ce jour jamais vu de couple de licorne. C'est un animal, indubitablement un mâle, qui est toujours solitaire et qui pointe droit vers le ciel sa corne pointue. Peut-être devrions-nous en faire le représentant des hommes sans femme, le symbole de notre solitude accablante. Et peut-être devrions-nous arborer sur notre chapeau ou sur notre poitrine un badge à l'effigie d'une licorne et marcher en silence dans les rues du monde. Sans musique, sans drapeau, sans confetti peut-être. Peut-être que j'utilise le mot peut-être trop souvent. Peut-être. Il est très facile de devenir des hommes sans femme. On a juste besoin d'aimer profondément une femme et que celle-ci disparaisse ensuite. En général, comme vous le savez, elles auront astucieusement été emmenées par de robustes marins. Ils les auront enjôlées avec de belles paroles et entraînées en un tournement jusqu'à Marseille ou jusqu'en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons presque rien faire face à cela. Il arrive aussi que les marins n'y soient pour rien et qu'elles se suppriment volontairement. Face à cela aussi, nous sommes impuissants, et les marins également. D'une manière ou d'une autre, vous voilà devenus des hommes sans femme, en l'espace d'un instant. Et dès que vous êtes un homme sans femme, les couleurs de la solitude vous pénètrent le corps, comme du vin rouge renversé sur un tapis aux teintes claires. Si compétent que vous soyez en travaux ménagers, vous aurez un mal fou à enlever cette tâche. Elle finira peut-être par pâlir avec le temps, mais au bout du compte, elle demeurera là pour toujours, jusqu'à votre dernier souffle. Elle possède une véritable qualification en tant que tâche, et à ce titre, elle a parfois officiellement voix au chapitre. Il ne vous reste plus qu'à passer votre vie en compagnie de ce léger changement de couleur et de ses contours flous. Les bruits résonnent différemment dans ce monde. La soif s'éprouve différemment. La barbe pousse différemment. Les employés des Starbucks se comportent différemment, et même les solos de Clifford Brown, on les entend différemment. La fermeture des portes du métro aussi est différente. La distance entre Omotesando et Aoyama Ikome, nettement différente. Et même si vous rencontrez ensuite d'autres femmes, même si elles sont merveilleuses, ou pire, plus elles sont merveilleuses, vous savez dès le premier instant que vous les perdrez. Les ombres évocatrices des marins, les accents des langues qu'ils parlent, du grec, de l'estonien, du tagalog, vous angoissent. Les noms exotiques des ports du monde vous font peur, parce que vous le savez déjà, pour une raison ou une autre, vous deviendrez des hommes sans femme. Vous êtes un tapis persan aux teintes claires que la solitude a taché de vin de Porto. Des tâches qui ne s'en iront pas. Ainsi, il y a eu de la solitude venue depuis la France et des blessures douloureuses qui se sont propagées au Moyen-Orient. Pour les hommes sans femmes, le monde est un espace immense, un assemblage d'éléments acérés, exactement comme la face cachée de la lune. J'étais resté à peu près 2 ans avec M. Ce n'était pas beaucoup, 2 ans, mais ce furent 2 années lourdes. 2 années seulement, ça passe vite, pourrait-on dire. Ou bien 2 années, cela peut être très long, pourrait-on dire aussi. Tout dépend du point de vue, évidemment. Je dis que nous étions ensemble, mais en réalité, nous ne nous voyions que 2 ou 3 fois par mois. Elle avait ses obligations, j'avais les miennes. Et malheureusement, nous n'avions plus 14 ans. Toutes ces circonstances finirent par avoir raison de nous. Même si je la serrais dans mes bras aussi fort que possible, et partout, un éparpillement d'ombres métaphoriques, celle des marins, lourdes et sombres, essaims de punaises aux pointes aiguisées. À présent, ce dont je me souviens le plus souvent, c'était que M aimait énormément la musique d'ascenseur. Percy Faith, Mantovani, Raymond Lefebvre, Frank Chakesfield, Francis Lay, l'orchestre des 101 Strings, Paul Maria, Billy Vaughan, etc. Elle aimait fatalement, si je puis dire, ce genre de musique inoffensive. Le ruissellement suave des cordes, la plaisante émergence des bois, les vents jouant en sourdine, les douces sonorités de la harpe qui vous caresse le cœur. Des mélodies au charme toujours intact, de jolies harmonies qui fondent comme un bonbon sur la langue, des enregistrements avec juste ce qu'il faut de bon écho. Quand j'étais seul au volant, j'écoutais souvent du rock ou du blues, Derek and the Dominos, Otis Redding, ou encore les Doors. Mais M n'était absolument pas d'accord pour que je mette ce genre de musique. Elle emportait toujours un sac en papier qui contenait 12 de cassettes de musique d'ascenseur, qu'elle insérait l'une après l'autre dans le lecteur. Et alors que nous roulions à l'aventure, ses lèvres bougeaient en silence, à l'écoute de White Lover, de Francis Lay. Ses délicieuses lèvres sexy, soulignées d'un rouge tendre. Elle devait bien posséder 10 000 cassettes de ce genre de musique, et sur ses mélodies innocentes, issues de tous les pays du monde, elle avait des connaissances impressionnantes. Elle aurait pu ouvrir un musée de la musique d'ascenseur. Quand nous faisions l'amour, il y en avait toujours en fond sonore. Combien de fois, par exemple, nous avons entendu « A Summer Place » de Percy Faith, alors que je la tenais dans mes bras. Je suis un peu gêné de l'avouer, mais aujourd'hui encore, cette mélodie m'excite. Dès que je l'entends, ma respiration s'accélère et je me sens brûlé. Sans doute suis-je le seul homme sur cette terre à éprouver une excitation sexuelle dès le début de « A Summer Place ». Ou non, son mari a peut-être les mêmes symptômes. Je lui fais de la place et je corrige. Moi compris, il y a sans doute 2 hommes sur cette terre qui éprouvent une excitation sexuelle dès le début de « A Summer Place ». Voilà, c'est dit. Espace. J'aime beaucoup cette musique, tu sais, me confia M un jour. En résumé, c'est une question d'espace.
Une question d'espace?
Eh bien, quand j'écoute ces musiques, j'ai l'impression de me trouver dans un espace immense et vide. Il s'étend à l'infini et il n'y a pas de cloison. Pas de mur, pas de plafond. Et là, je n'ai pas besoin de penser, pas besoin de parler, pas besoin d'agir. Juste d'être là. Juste de fermer les yeux, de m'abandonner à la beauté des sons des cordes. Plus de maux de tête, plus de sensations de froid, plus de règles ni d'ovulation. Tout est simple, très beau, très paisible, rien n'est pesant. Je ne peux rien souhaiter de plus.
C'est comme au paradis?
Oui, dit M. Au paradis, je suis sûr qu'il y a de la musique de Percy Faith en arrière-fond. Dis, tu pourrais encore me caresser le dos?
Bien sûr, répondis-je.
Tu sais vraiment bien caresser le dos. Henri Mancini et moi échangeâmes un regard sans qu'elle s'en aperçoive. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. Naturellement, j'ai aussi perdu la musique d'ascenseur. Chaque fois que je suis seul au volant, voici ce que j'imagine. Alors que j'attends à un feu, une jeune femme inconnue ouvre soudain la portière et s'assoit à côté de moi. Sans dire un mot, sans me regarder. Elle insère la cassette de White Lovers dans le lecteur. Il m'arrive d'en rêver aussi. Mais bien sûr, ce genre de choses n'arrive pas dans la réalité. Je n'ai d'ailleurs plus de lecteur de cassette. À présent, quand j'écoute de la musique en voiture, c'est avec un iPod ou par l'intermédiaire d'un câble USB. Et bien entendu, ni Francis Lai, ni les 101 Strings, plutôt Gorillaz ou Black Eyed Peas. C'est ça, perdre une femme. Et perdre une femme signifie aussi qu'on a perdu toutes les femmes, et que de la sorte, nous sommes devenus des hommes sans femmes. Et qu'en outre, nous avons perdu Percy Faith, Francis Lai, et les 101 Strings, les Ammonites et les Colacanthes. Et naturellement, son dos, si séduisant. En entendant Moon River, sous la direction de Henri Mancini, ses douces mesures à trois temps donnaient le rythme de mes caresses sur le dos de M. Waiting round the bend, my huckleberry friend. Mais tout cela a disparu. Il ne me reste que le vieux bout de gomme et les chants funèbres des marins au loin. Et aussi bien sûr la licorne à côté du jet d'eau, qui en solitaire pointe vers le ciel sa corne unique. Ce serait bien si M était à présent au paradis, ou dans un lieu qui y ressemble, et si elle écoutait Summer Place. Si elle était tendrement enveloppée dans cette musique sans limite et sans frontières, et que ne soit surtout pas diffusée Jefferson Airplane par exemple, Dieu ne serait tout de même pas aussi cruel. Je l'espère vraiment. Et alors qu'elle écouterait les pizzicato des violons, je me dis que ce serait bien que, de temps en temps, elle se souvienne de moi. Mais c'est peut-être trop demandé. Je prie pour que, même sans moi, M vive heureuse là-bas, le cœur en paix, avec son immortelle musique d'ascenseur. Moi qui suis l'un de ces hommes sans femme, je prie ainsi de toute mon âme. Que pourrais-je faire d'autre que prier, pour le moment ? Peut-être.
Merci et à bientôt chez Audible.